Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous, avec du beau temps et Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, la preuve encore aujourd'hui dans nos indispensables. On va parler des vendanges et d'un jeu vidéo. Dès le début de la deuxième heure, ne manquez pas la chronique de Bruno Donnet qui a regardé les deux débats télévisés d'hier, Zemmour-Mélenchon sur BFM et Pécresse-Darmanin sur France 2. On vous donnera également le chiffre d'audience de la 2. Hasard de l'actualité, à l'occasion du 100e numéro de son hebdomadaire, La Croix Hebdo, donc, publie aujourd'hui un manifeste débattre vraiment. Manifeste qui fixe une charte de bonne conduite dans les débats télévisés et radio. Manifeste signé par 100 personnalités, dont d'anciens premiers ministres comme Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve. Explication avec le patron de la rédaction, Jérôme Chapuis. Et puis nos invités, la journaliste et productrice Caroline Delage, pour un documentaire saisissant consacré au harcèlement scolaire à Bonne École. C'est en exclusivité sur Canal Plus Kids, doc à la fois effrayant et plein d'espoir, car il dévoile des solutions concrètes. Enfin, le romancier Guillaume Musso pour son nouveau roman L'Inconnu de la Seine. Il y aura également son portrait d'avant la célébrité avec Lisa Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Nagui fait encore des ajustements pour tenter de réanimer The Artist. Le magazine L'Express se diversifie. Hugo Clément nous raconte son enquête sur la guerre de l'eau. Et puis Twitter se met au Bitcoin.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé le lancement de la série Fugueuse sur TF1. C'est un lancement correct. 3 910 000 téléspectateurs devant le premier épisode. 17,6% de part d'audience. Pour vous donner une idée, par exemple, la série qui l'avait précédé, Mensonge, c'était un lancement à plus de 5,5 millions. Donc voilà, c'est plutôt correct, mais peut-être un peu décevant. En même temps, le thème était audacieux puisque pour TF1, puisque c'était sur la prostitution des mineurs. Deuxième, la série 911 sur M6, 2 110 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 10,1% de part d'audience, dans sa moyenne à peu près, un petit peu en dessous. Troisième, France 3 avec Un jour un destin, un inédit consacré à Jean-Jacques Goldman, 1 770 000 téléspectateurs, 8,3% de part d'audience. C'est à peu près ce qu'avait fait Un jour un destin la dernière fois que ça avait été diffusé en prime en 2020. Et puis, je vous donne le mauvais score de France 2, Élysée 2022, donc c'était l'émission politique qui recevait Valérie Pécresse. 1 050 000 téléspectateurs seulement, 5,1% de part d'audience. Très mauvais score donc pour France 2, qui est battu par Camping 3, le film sur TMC. 1 150 000 téléspectateurs hier soir.
Culture Média. Et je précise que vous ne donnez pas l'audience débat Zemmour-Mélenchon, car cette audience n'est pas encore tombée.
Ils peuvent avoir fait plus, on verra ça lundi.
Alors, à la une de votre journal des médias, Louise, un nouveau jury pour The Artist.
The Artist, c'est l'émission créée, produite, présentée par Nagui le samedi soir sur France 2. Émission qui ne marche pas du tout. On vous en a déjà parlé plusieurs fois dans ce journal. Moins d'un million de téléspectateurs samedi dernier, par exemple. Alors, l'animateur continue les ajustements, dont un de taille. Le jury, demain soir, excité Élodie Mermoz et Emmanuel Viro, qui se contenteront désormais de conseiller les candidats sur leurs prestations. Le jury maintenant sera composé de grands noms de la chanson française, Pascal Obispo, Gaëtan Roussel et Benabar, trois auteurs, compositeurs, interprètes, ce qui est parfaitement cohérent avec l'émission, qui entend justement révéler des artistes avec ses profils complets. Ils chanteront avec les candidats sur scène, les Black Eyed Peas également.
Dès samedi soir, les artistes prennent possession et soutiennent The Artist. C'est à 20h40 sur France 2. Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Benabar, Black Eyed Peas et vous.
Nagui sur son compte Instagram qui ne lâche rien, dit-il.
Alors on verra avec les audiences lundi matin si ces changements ont porté leurs fruits. Lui aussi aimerait toucher davantage de public. C'est le magazine L'Express qui veut se diversifier.
Se diversifier pour tenter donc de séduire davantage d'abonnés et repasser les comptes dans le vert. Avec son podcast quotidien d'actualité, La Loupe, lancé juste avant l'été. Ses deux newsletters également envoyés chaque jour. Et le patron du magazine, Alain Veil, vient d'annoncer hier une nouveauté. Le lancement de masterclass vidéo en 2022. Des formats longs où des personnalités inspirantes viendront raconter leur parcours, hommes, femmes d'affaires ou politiques par exemple. Un premier pas vers l'image et la télé, dit-il. D'ailleurs, lors de la conférence de presse, Alain Veil a confié ne pas s'interdire de regarder les chaînes qui pourraient être vendues dans le cadre du rapprochement M6-TF1. Les deux groupes vont en effet devoir vendre certaines de leurs chaînes s'ils veulent fusionner.
Hugo Clément fait sa rentrée sur France 5 dimanche soir avec un nouveau numéro de Sur le front.
Un nouveau documentaire entre reportage et enquête autour de l'environnement. Il y en aura un chaque mois pendant toute la saison. Et pour débuter cette saison, justement, le journaliste s'attaque à la problématique de la sécheresse. Tristement d'actualité après un été marqué par des incendies en Turquie, en Grèce, en Algérie notamment. Mais Hugo Clément a choisi de se concentrer sur la France, car oui, le phénomène nous concerne aussi.
La sécheresse, ça a un impact quotidien, concret sur la vie des habitants, par exemple, qu'on a rencontrés dans l'Aude et qui ont plus d'eau au robinet. Ça a un impact concret sur la vie des gens qui ont perdu leur maison dans le Var parce qu'il y a eu des méga-feux qui ont été attisés, renforcés par cette sécheresse. Ça a un impact concret sur les habitants qu'on est allé rencontrer en Vendée et qui voient leur maison se fissurer de plus en plus à cause de la sécheresse et du sol argileux qui se rétracte. Donc c'est en train de rentrer dans le quotidien de milliers, de centaines de milliers de Français et prochainement, malheureusement, de millions de Français. Donc c'était très important et très urgent pour nous de mettre la lumière sur ce problème, de révéler des informations qui sont peu connues du grand public, et puis aussi de montrer qu'il peut y avoir des solutions.
Et des solutions, il en faut, parce que ce problème de manque d'eau provoque des conflits en France. Conflits entre agriculteurs, notamment sur la question des bassines agricoles. Par exemple, ce sont de grands bacs construits pour irriguer les cultures gourmandes en eau, accusés d'aggraver justement cette sécheresse, tout comme les canons anti-grêle, dont on découvre peut-être l'existence, c'était mon cas, qui sont censés protéger les cultures. Et c'est pour ça qu'Hugo Clément a nommé cette émission « La guerre de l'eau en France ».
Il y a une multiplication des conflits et malheureusement, j'ai envie de dire, on n'est qu'au début de ces conflits-là, parce que plus la ressource en eau va être perturbée, c'est-à-dire soit trop, soit pas assez, plus il va y avoir de conflits autour de cette question de l'eau. Et ces conflits touchent et vont toucher de plus en plus la France. Alors évidemment, c'est pas au niveau de ce qu'est la guerre de l'eau dans d'autres pays déjà aujourd'hui, notamment des pays où l'eau est encore plus rare que chez nous et où évidemment on a jusqu'à des conflits armés autour de cette ressource de l'eau. On n'en est pas encore là en France, mais on commence à assister à des prémices de guerre, des prémices de conflits autour de l'usage de l'eau et de la manière de préserver la ressource.
Voilà, nouveau documentaire sur le front diffusé dimanche soir à 20h55 sur France 5.
Et une nouveauté, vous pouvez désormais donner des pourboires sur Twitter.
Oui, des pourboires à vos comptes préférés. C'est une nouvelle option que propose le réseau social dès aujourd'hui dans le monde entier, sur iPhone uniquement. Des pourboires non pas via des paiements en carte bancaire, mais en crypto-monnaie, notamment en Bitcoin. Twitter continue ainsi de déployer sa nouvelle stratégie, développer des espaces payants. Le réseau social avait déjà lancé une option d'abonnement payant à certains comptes aux États-Unis uniquement. Avec cette stratégie du payant, Twitter veut fidéliser en fait les créateurs de contenu et leurs fans, évidemment, prêts à payer.
Voilà, mais il faut un iPhone, être aux États-Unis et payer en Bitcoin.
Non, alors le Bitcoin, ce sera même en France, c'est dans le monde, c'est les abonnements payants à certains comptes qui est pour l'instant uniquement réservé aux États-Unis.
Merci beaucoup, Louise Bernard.
Mais pour si vous voulez m'envoyer des Bitcoins, n'hésitez pas, j'ai un compte Twitter.
Moi aussi, j'ai un compte Twitter, je veux pas de Bitcoin. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À lundi, Louise, pour les audiences de l'émission de Nagui, du débat Zemmour-Mélenchon et pour un nouveau journal des médias.
Ah ouais, il y en aura des choses à dire. À lundi.
Dans un instant, notre info média du jour, là aussi, il y a des choses à dire. Si vous aimez regarder les débats politiques, vous apprécierez le manifeste publié par la Croix Hebdo ce vendredi, 100 signataires, dont deux anciens premiers ministres, pour des débats plus respectueux. C'est ambitieux. Dans quel but ? On en parle avec le directeur de la rédaction de la Croix. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Si vous n'étiez pas dans votre télévision hier soir où France 2 discutait avec Valérie Pécresse, il y avait un débat Pécresse-Darmanin et BFM TV organisait le débat Mélenchon-Zemmour, ne vous inquiétez pas, vous vous rattraperez pendant les 7 prochains mois, il y en aura, oui, la campagne présidentielle est lancée et les débats vont peu à peu inonder les programmes télé et radio. Et à l'occasion du 100e numéro de son hebdomadaire, la rédaction de La Croix Hebdo, donc, publie aujourd'hui un manifeste, c'est en une, débattre vraiment, manifeste signé par 100 personnalités, dont d'anciens premiers ministres. Pourquoi, dans quel but le journal La Croix s'engage-t-il sur ce sujet et est-ce que cela changera vraiment quelque chose ? Pour répondre à ces questions, Jérôme Chapuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction du quotidien La Croix et aussi du groupe. Vous chapeautez également l'hebdo et le site. Le groupe Bayard a lancé en 2019 La Croix Hebdo, magazine dont la signature tient en deux mots, comprendre vraiment. Oui. C'est le 100e numéro aujourd'hui, il faut le saluer. On est ici une émission média. Vous pensiez arriver jusqu'ici, le business plan comprenait son numéro ou c'est une surprise?
Non, c'est pas une surprise, évidemment, on avait de grandes ambitions pour cette hebdomadaire et on est très heureux parce qu'aujourd'hui, La Croix à l'Hebdo nous a permis en 2 ans de nous adresser à 20 000 nouveaux lecteurs, c'est-à-dire que chaque semaine avec La Croix à l'Hebdo, nous nous adressons à 90 000 abonnés et nous touchons en réalité 500 000 personnes au travers de ce nouveau magazine de La Croix.
Alors, pour ce 100e numéro, je l'ai dit, vous publiez un manifeste. Il n'est pas anodin alors que la campagne présidentielle est lancée. Il s'appelle « Débattre vraiment ». Que dit-il? Expliquez l'idée qu'il y a...
L'idée, elle est très simple. L'idée, c'est que le débat public, la qualité de la parole publique, d'abord, c'est très important à quelques mois de la présidentielle, et c'est l'affaire de tous. Pendant très longtemps, le débat public, c'était l'affaire des médias, essentiellement, et de toutes les personnes qui avaient accès à l'espace public. Qu'est-ce qui a changé depuis 15 ans, grâce ou à cause des réseaux sociaux? C'est que tout le monde a accès instantanément à l'espace public. Par les réseaux sociaux, on peut prendre la parole. C'est une très bonne chose sur le papier. Mais vous savez bien que, on l'a vu notamment lors d'échéances électorales aux États-Unis en 2016, que ça vient perturber le jeu démocratique. Notre volonté, c'était simplement d'attirer l'attention sur le fait que chacun a une responsabilité pour que le débat se passe bien. Donc on a fait une liste toute simple, très concrète, que chacun peut prendre pour lui. C'est pas un truc de journaliste, c'est pour chacun de nos lecteurs d'abord, mais aussi chaque Français finalement, se disent, voilà, moi, à la place qui est la mienne, voilà ce que je peux faire pour que cette campagne se passe bien.
Alors c'est très simple à voir, je montre l'image sur europe1.fr, il y a 10 engagements pour cette année électorale et sur la page de droite il y a 100 personnalités. Avant qu'on détaille les personnalités, d'abord les engagements, je vais en donner quelques-uns. 1. Lutter contre les fausses informations, s'abstenir de relayer celles dont on ignore la source. 2. Ne pas attaquer à la vie privée, préserver l'intimité, y compris celle des personnes publiques. 3. Ne pas injurier, diffamer, humilier, dénigrer, harceler. Ça paraît des évidences, mais ça va mieux en le disant. On pense à Donald Trump qui volontairement diffusait des informations fausses.
Oui, et vous avez tout à fait raison. Ça va mieux en le disant. Enfin, c'est intéressant parce qu'on va parler de ces personnalités nous, qu'on a contactées avec ce manifeste. Et la plupart du temps, effectivement, tout le monde disait, bon... C'est tout à fait, ça semble une évidence. Mais aujourd'hui, en fait, ça n'est pas si évident parce que chacun, vous connaissez notre pente naturelle. On l'a tous, cette pente naturelle. On fait de la leçon à personne. On l'a tous. On a tous envie, à un moment donné, de castagner un peu dans l'espace public. On a tous envie, ça nous démange. Quand on voit quelque chose devant notre télé, quand on écoute la radio, on se dit, ça nous démange. Et donc, on a envie d'injurier, on a parfois envie de dénigrer, parfois on sort les infos de leur contexte, on les relaie sur les réseaux sociaux, parfois derrière l'anonymat, vous savez, on a des comptes parfois anonymes, et ben on en profite pour biaiser les règles.
Vous récusez les comptes anonymes?
Non, on les récuse pas. Justement, si vous lisez notre 6e engagement,
oui. Je voulais que ce soit vous qui le disiez.
On l'a formulé de cette manière, ne pas utiliser l'anonymat ou les pseudos pour contourner les règles de civilité ou biaiser le débat.
C'est-à-dire, on peut être anonyme en étant civil.
Moi, je pense d'abord que l'anonymat, dans certains cas, il peut être très utile pour dénoncer des situations dans un premier temps. Il peut être tout à fait... légitime.
Le vote se fait à bulletin secret.
Alors, par ailleurs, oui, mais le vote, c'est encore autre chose.
Il n'y a pas que du mal dans l'anonymat, voilà ce que je voulais dire. Vous avez totalement raison.
Le vote, c'est une condition de la liberté de conscience, le secret du vote. En tout cas, sur l'anonymat, on s'est beaucoup posé la question quand on a formulé dans la rédaction de La Croix, quand on a formulé ce 6e engagement, est-ce qu'on se propose d'interdire l'anonymat? Et on s'est dit non, ça peut être utile parfois, simplement, là, il ne faut pas le détourner pour biaiser, encore une fois, les règles de la civilité. Ce qui est important, c'est la civilité des débats.
Le 3e engagement, ne pas attaquer la vie privée, préserver l'intimité, y compris celle des personnes publiques. Ça rappelle évidemment certaines affaires de ces derniers mois, Benjamin Griveaux, avec des photos, voilà. Jusqu'à la couverture, hasard de l'actualité, télescopage de Paris Match, où on voit Éric Zemmour et sa conseillère, Sarah Knafou, en train de se baigner sur une plage de Nice. Que vous inspire cette image?
Nous, à La Croix, on défend le droit de regarder ailleurs. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité qui polluent le débat. Moi, je suis pas là pour faire la leçon à quiconque, aux confrères. C'est pas le sujet.
Bah, ne pas attaquer à la vie privée. Est-ce que Paris Match, qui est un confrère, attaque la vie privée?
En l'occurrence, voilà. La justice le dira. J'ai entendu qu'il y avait une plainte. Moi, encore une fois, on n'est pas là pour justement dénigrer ou faire la leçon à qui que ce soit. Moi, mon sujet, c'est que si des gens estiment que le débat est abaissé par ce type d'information, si tant est qu'on considère que ce soit une information, eh bien, ils puissent regarder ailleurs. Ils puissent se dire, j'ai envie de débattre de quelque chose de vraiment important. J'ai envie de débattre. Pendant ce temps, on parle
vous
pas
vous répondez pas à
chose,
ma question. Quoi. Je suis très étonné par votre prudence. Vous avez regardé le débat hier?
Non, j'ai pas regardé le débat.
Justement, on va vous faire entendre des sons.
Alors, ça dépend
de
quel débat vous parlez.
Ces extraits, il y en avait deux. Ouais. Vous restez avec nous, Jérôme Chapuis. On parle de cette charte. Débatte vraiment. Vous êtes le directeur de la rédaction de La Croix. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jérôme Chapuis, le directeur de la rédaction de La Croix, c'est à la fois un quotidien, un site évidemment, et depuis 100 numéros, un hebdo. Le numéro 100 sort aujourd'hui avec en une l'appel des 100, débattre vraiment. C'est 10 engagements pour cette année électorale, 10 engagements à respecter pour débattre, pas seulement si on participe à un débat télévisé, mais aussi si on parle avec ses amis au restaurant, dans un dîner de famille, on peut se fâcher dans un dîner de famille, chacun le sait, ou également sur les réseaux sociaux. 100 signataires, ce sont les 100 premiers, une jolie liste avec notamment Édouard Philippe ou Bernard Cazeneuve, anciens premiers ministres. Comment avez-vous convaincu tous ces gens de signer ce manifeste? C'était facile, ce fut difficile?
Ils n'ont pas été très difficiles à convaincre. La plupart, en fait, manifestent souvent, d'ailleurs, dans les médias, leur inquiétude face à la dégradation du débat public. Donc, c'est quand même d'abord ça qui nous a guidés. Et nous, ce qui nous paraissait très intéressant, c'est d'avoir des personnalités de tous horizons. Vous avez, par exemple, Lilian Thuram, vous avez Guy Savoie, le grand chef cuisinier, Laurent Voulzy, l'historien Michel Vinocq. Vous voyez, des gens très, 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 très différents.
Lilian Thuram, un footballeur. Voilà. Laurent Berger, Jean-Michel Blanquer,
ministre de l'Éducation
en exercice.
Oui,
c'est important
alors,
de le dire.
C'est important parce qu'on a voulu, on s'est interrogé sur la place des ministres, mais il nous semblait intéressant, est-ce qualité que le ministre de l'Éducation se prononce en faveur de ses engagements, parce qu'il y a un vrai enjeu d'éducation aux médias. Même chose pour le numérique, parce qu'il y a un vrai enjeu. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, a signé parce que, voilà, on trouvait intéressant que des ministres en exercice, compte tenu de leur domaine d'exercice, se prononce en faveur de ces engagements.
Et il y a également des gens qui ne sont pas LREM, puisqu'il y a Éric Piolle, par exemple, le maire
de Grenoble, Europe Écologie et Verts.
Y a-t-il des candidats à la présidentielle déclarés qui ont signé, ou plutôt qui vont signer? Parce
Alors,
que la liste des signatures continue de s'agrandir.
On s'est beaucoup interrogé parce que on l'a conçu plutôt comme une interpellation en direction des candidats. Et de fait, depuis hier, je sais qu'Anne Hidalgo sur les réseaux sociaux a assez vite réagi, Valérie Pécresse, on sait aussi que Michel Barnier voit tout cela d'un œil très favorable. Donc nous, on pose ça dans le débat. Et puis après, que les candidats déclarés ou qui pourraient se déclarer acceptent, c'est à eux de le dire publiquement.
Et vous le mettrez dans votre liste?
Et on la mettra dans notre liste sur Internet.
Vous avez regardé les débats hier soir?
J'ai pas regardé les débats hier soir.
Deux émissions politiques avaient vocation justement à nourrir ces débats. Valérie Pécresse dans Élysée 2022 sur France 2, suivie d'un débat entre elle et Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur BFM TV. L'un des engagements de votre manifeste porte sur la lutte contre la fausse information. C'est même le premier engagement. Et BFM TV, hier, avait justement mis en place une équipe d'une dizaine de journalistes pour fact-checker les chiffres donnés par les deux débatteurs. Et Éric Zemmour ne semble pas avoir beaucoup apprécié. Écoutez.
Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Et que vous devriez lire l'excellent livre de Charles Prats et vous verrez ce qu'il en est exactement. Et vous comprendrez à quel point vous vous êtes couverte de ridicule là pendant cette soirée.
Alors, à pas rentrer dans le fond du problème, parce que sinon on serait là encore dans une demi-heure. Est-ce qu'il faut vérifier les vérificateurs maintenant?
Non. Non, d'abord, je pense qu'il y a un moment où, effectivement, comme dans votre question, on voit bien qu'il y a un risque de rentrer dans un cercle interminable.
On a l'impression d'être dans la VAR, l'arbitrage vidéo au football. Oui, je raconte, avant, on critiquait l'arbitre, on a dit on va mettre l'arbitrage vidéo. Oui. Pour que l'arbitre soit hors de critique, et maintenant c'est l'arbitrage vidéo lui-même qui est critiqué.
Oui, on voit très bien que les nouvelles technologies l'arbitrage vidéo d'hier soir dans le débat en fait partie. C'est-à-dire que très très rapidement, on peut effectivement vérifier les dires des uns et des autres, mais ça ne fait que accélérée et finalement embrouillée sans doute. Moi, le fact-checking, le principe de la vérification, il y aura même pas, il y a même pas à en discuter. C'est la base du journalisme. C'est-à-dire que c'est le service minimum du journaliste. Et évidemment, je veux dire, le moment venu, il est important de vérifier les dires des uns et des autres. Mais si on passe une émission à expliquer aux gens qui sont en train de raconter n'importe quoi, à ce moment-là, ça trouble complètement le débat.
Justement, je voudrais vous faire entendre la réaction de Jean-Luc Mélenchon au moment où Éric Zemmour réfutait les chiffres donnés par la cellule fact-checking de BFM TV.
Non, attendez, faut pas parler comme ça. On nous dit des chiffres, on les prend. Moi, c'est la réalité. Si par exemple, on me dit, mais non, personne reste dans le noir. Ah, je suis content. Je me suis trompé. Vous voyez, monsieur Zemmour,
attendez,
je ne suis pas sûr que je me sois trompé.
Il était question d'électricité. C'est un défi impossible pour la Croix que de faire respecter ce manifeste. Ça vous fait même sourire.
Non, bah nous, alors d'abord, on est parfaitement, je ne voudrais pas vous dire ça comme ça, mais on est sans illusion sur le fait que toutes les personnes qui n'ont pas intérêt à ce que le débat public se passe correctement vont nous regarder un peu de haut. Voilà, l'extrait qu'on vient d'entendre me fait penser à la fameuse phrase d'Alfred Sauvy, les chiffres sont des petits animaux fragiles à qui on peut faire dire n'importe quoi sous la torture. C'est de fait, un chiffre, c'est une réalité, mais on peut le tordre dans tous les sens. Donc il y a un moment où le fact-checking, effectivement, est devant une limite.
On va quitter les chiffres. Mmh. Autre engagement de votre manifeste, ne pas enfermer les interlocuteurs dans des identités figées d'origine, de genre, d'âge, de religion ou de classe sociale. Éric Zemmour, hier soir, dans le débat face à Jean-Luc Mélenchon, on va l'entendre, il parlait de la pauvreté et du rapport de cette pauvreté, rapport selon lui, avec la délinquance. Écoutez-le.
Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre.
J'ai pas honte ?
Non, j'ai pas honte du tout.
La délinquance, c'est le djihad, c'est la délinquance. Est-ce que c'est cela que vous voulez éviter avec le manifeste de la Croix ?
Pour employer un mot nous, on veut éviter ce qu'on appelle l'essentialisation, c'est-à-dire le fait d'enfermer des gens dans une identité et ce qui peut susciter des raccourcis comme celui qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si on veut débattre correctement des choses, on ne peut pas dire à la personne qui est en face de vous, vous dites cela parce que vous êtes de quelle couleur, vos parents pensaient ceci. Enfin, il y a un moment où il faut commencer par écouter les gens jusqu'au bout. Et non pas en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce qu'ils vous disent. C'est la base du débat. Donc cet engagement, il est là encore une fois extrêmement simple et à mon avis pas très compliqué à faire respecter.
La campagne ne fait que commencer. Allez-vous faire un suivi de cette campagne à la Croix ?
Ah oui, bien sûr, on va suivre cette campagne.
Je veux dire par là, avec ce manifeste, est-ce que vous allez donner des points, comme s'il y avait une sorte d'observatoire du respect de cette charte ?
La première des choses, c'est que encore une fois, c'est quelque chose qu'on essaie de s'appliquer à nous-mêmes. Les journalistes sont pas parfaits, ça pourra nous arriver d'être de pas être complètement en phase d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ensuite, c'est quelque chose qu'on propose à nos interlocuteurs. Nous, c'est une manière de regarder le monde qu'on propose. C'est une manière d'en parler. Et c'est quelque chose qu'on essaie de partager avec le plus grand nombre parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le débat ne se fait pas seulement à la télévision, à la radio ou dans les journaux, mais il se fait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, c'est en ce sens que nous, on va être très attentifs à cette campagne. Notre sujet pour nous dans les prochains mois, à la place qui est la nôtre, modestement, c'est d'essayer de faire en sorte que les choses se passent à peu près bien, quoi. Voilà, qu'on s'entende et qu'on s'écoute vraiment, qu'on s'entende dans tous les sens du terme.
Débattre vraiment et puis sans idée pour se parler sans s'écharper, c'est un dossier à la une de la Croix l'Hebdo qui fête aujourd'hui son 100e numéro. Merci Jérôme Chapuis d'avoir
beaucoup.
Été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction, des rédactions donc de la Croix. Dans un instant, on va parler du harcèlement scolaire, comment ce harcèlement est perçu par les enfants, quelles sont les méthodes, car il y en a qui permettent de lutter et de prévenir ce fléau, à travers un documentaire édifiant, très intéressant, qui va passer dimanche soir sur Canal Plus Kids. Nous serons avec sa productrice, la journaliste Caroline Delage.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Caroline Delage.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes productrice, conceptrice de l'émission Au Tableau. Je vais aussi citer le doc Une Vie d'écart. Vous étiez venu nous en parler.
Ouais.
Doc dans lequel des collégiens allaient à la rencontre de pensionnaires d'EHPAD. Et là, votre actualité, c'est un documentaire à Bonne École. C'est sous-titré Les enfants contre le harcèlement. C'est important, la diffusion. C'est en exclusivité sur Canal Plus Kids, la chaîne nouvellement créée qui porte bien son nom. Et sur MyCanal, le harcèlement, pourquoi ce thème ?
parce que c'est un thème qui nous concerne tous. C'est un élève sur 10 directement concerné, mais il y a aussi bien sûr les harceleurs. Et puis il y a tous ceux qui sont ni harcelés ni harceleurs, mais qui sont témoins et plus ou moins complices, et qui pourrait devenir actif au lieu de rester passif, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, parce que je l'ai vécu dans mon enfance, et surtout qui touche personnellement la réalisatrice Chloé Garrel, et c'est pour ça qu'elle est venue me voir avec ce projet que je ne pouvais pas ne pas faire, évidemment.
J'ai lu dans le dossier de presse que Chloé Garrel avait été harcelée pendant son enfance, vous également, c'est la première fois que j'entends ça.
Oui, mais je ne crois pas l'avoir réalisé à l'époque, on en parlait beaucoup moins, on ne mettait pas forcément le mot. Je l'ai réalisé pour vous dire, parce qu'une des choses qui m'a le plus marquée en faisant ce documentaire, c'est bien sûr il y a des drames absolument épouvantables et des enfants qui mettent fin à leur vie à 12 ans, à 13 ans, c'est insoutenable, mais il y a aussi des gens qui en vivent les conséquences toute leur vie. C'est le cas de Jackie Pamard notamment, qui est l'un des intervenants qui apprend aux jeunes justement à devenir médiateur et à agir contre le harcèlement, à s'interposer. Il a 26-27 ans aujourd'hui, il parle des conséquences dans sa vie d'adulte.
Et tout d'un coup, il se met à fondre en larmes.
Exactement.
Il dit « je n'avais pas reparlé de ces événements » et il ne tient plus, l'émotion est trop forte, le submerge totalement,
voilà.
C'est un moment très fort de ce doc.
Exactement, et il raconte comment aujourd'hui, le groupe c'est difficile, les rapports aux autres c'est difficile, qu'il a toujours peur d'être abandonné, qu'on le laisse, etc.
Et vous-même, je suis obligé de vous poser la question parce que les gens se la posent en vous entendant. Vous venez de dire que ce n'était pas dramatique, mais ça se manifestait comment, le harcèlement ?
Oui, c'était le syndrome de la première de la classe, des petites brimades, des moqueries, on m'enfonce le crayon dans le chignon, parfois un rejet, un isolement. Je ne l'ai pas vécu de manière traumatisante, je n'ai jamais eu de pensée suicidaire, mais je me rends compte que dans ma vie d'adulte, il y a aujourd'hui des sentiments qui résultent de cette situation-là.
Alors, je dois dire qu'on n'est pas en train de parler d'un petit confort personnel. Selon une étude de l'UNICEF que vous citez, le harcèlement subi a des effets négatifs durables qui peuvent se ressentir jusqu'à l'âge de 50 ans. Et ce chiffre, souffrir de brimades à répétition à l'école, augmenterait de 40% le risque d'être victime d'une maladie mentale, dépression, anxiété, anorexie.
À l'âge adulte, ouais.
Racontez le dispositif. Quand vous avez filmé, vous avez suivi une classe de 5e.
Oui, ce sont 6 collégiens de 5e, de Viry-Châtillon dans l'Essonne. C'est le collège Olivier de Serres. On leur fait découvrir des méthodes, parce que heureusement, c'est pas une fatalité, le harcèlement. Il existe des solutions. Il y a des gens formidables qui, tous les jours, sont dans les établissements ou en dehors et qui se battent aux côtés des enfants pour assainir le climat scolaire. Donc, on a voulu montrer quelques-unes de ces méthodes. J'aime bien dire que ce film, pour moi, est une boîte à outils qu'on met à disposition de tous, des adultes, des enfants, des encadrants, de tout le monde, et que chacun, dans laquelle chacun peut piocher. Donc, il y a 6 méthodes qui sont découvertes tour à tour par ces 6 collégiens. Et pour que chacun puisse s'en emparer.
Ces collégiens ne sont pas seuls, il y a une marraine, ils sont accompagnés par elle, c'est l'humoriste Inès Reg qui demande à ce qu'on mette des paillettes dans sa vie. Pourquoi ouais. Inès Reg ?
Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un sujet très lourd et dramatique et je voulais un ton un peu décalé pour dédramatiser et pouvoir parler de manière décomplexée d'un sujet si important. Donc le ton d'Inès Reg est absolument parfait. En plus, elle est en direct avec les enfants et elle est absolument parfaite.
Et elle fait leur taille. Ils sont en 5e, elle fait
leur
taille.
Dit, ouais.
Mais ça a son importance.
Exactement.
Ça a son importance.
Oui, alors
puisqu'elle-même a vécu ça quand elle était
exactement.
Petite, au double sens du terme.
À cause de sa petite taille, elle a été harcelée jusqu'en 5e. Ouais.
Et justement, elle témoigne dans votre documentaire Inès Reg qui parle du harcèlement qu'elle a vécu.
Je sais que les enfants entre nous, on est méchants. Moi, je me rappelle d'une époque où, quand on n'avait pas de la marque ou quand on n'était pas coiffé comme il fallait, etc., on était la risée de tout le collège. Et donc aujourd'hui, je me dis, moi, par exemple, si j'étais vos parents, si j'étais ta maman, toute la journée, quand tu vas être à l'école, je vais être en panique parce que je vais me dire, est-ce que les gens sont gentils? Est-ce qu'elles se sentent pas mal à l'aise? Est-ce que... Tu vois? Et je pense que ça, c'est les restes de ce qui s'est passé pour moi quand j'étais plus jeune. Donc je pense qu'on n'oublie jamais, en vrai.
Mais je rappelle l'étude de l'UNICEF, le harcèlement subi a des effets négatifs durables qui peuvent se ressentir jusqu'à l'âge de 50 ans. Je voudrais qu'on entende un témoignage très fort, il y a beaucoup de témoignages forts, il fallait choisir. Elle s'appelle Noémie, elle a 12 ans, elle se décrit elle-même comme une élève sage et discrète, le petit rayon de soleil de la classe, et pourtant.
Moi je me suis fait harceler, j'avais 9 ans, j'étais en CM1. Tout a commencé un jour quand j'ai dit que je préférais les Kinder Bueno blanc au marron. Et de là, il y a une personne qui a déformé la phrase et qui a dit que j'étais raciste. Toutes les personnes de couleur et se sont mises contre moi. Ils étaient au moins 2 classes entières. Et ils me disaient « sale blanche », ils m'insultaient de pute, ils me tiraient les cheveux, ils me faisaient des croche-pieds ou sinon ils me regardaient mal. Et j'avais des messages de certaines personnes qui me disaient que j'étais méchante, j'étais mauvaise, que ça allait me tuer. Un truc comme ça.
C'est parti de cette phrase qu'elle préférait les Kinder Bueno blancs aux Kinder Bueno marrons.
C'est idiot le harcèlement. On le voit là avec le mouvement anti 2010, complètement absurde contre les élèves qui rentrent en sixième.
Voilà. Exactement.
Enfin, ça part de rien, d'une différence, d'un mot, d'un il faut trop bien trouver quelque chose, ou d'un complexe aussi parfois, d'un complexe qu'un enfant a qu'il essaye de cacher. Et c'est là-dessus qu'on va s'acharner. C'est complètement stupide le harcèlement, mais ça peut avoir des conséquences tellement dramatiques.
Comment avez-vous pu avoir la confiance des enfants qui se laissent filmer à visage découvert ? Parce qu'il est possible, vous vous êtes posé la question évidemment, que des camarades de classe les voient et disent « Ouais, t'es allé parler à la télé, t'as fait le beau » et repartir sur une nouvelle gamme de brimades.
Ils sont très fiers, les enfants, d'avoir participé à ce documentaire, d'être un peu quelque part les ambassadeurs de ces différentes méthodes. Je ne crois pas que ça puisse leur revenir dessus. Ce qui pourrait éventuellement, c'est d'exposer la souffrance qu'ils ont vécue. Noémie, comme Yacine, qui est un autre de nos six collégiens qui a été harcelé, qui est devenu harceleur, d'ailleurs, il le raconte avec une maturité.
On va entendre un extrait tout à l'heure.
Voilà, ouais. Et une lucidité dingue. Ils l'ont digéré, je crois, et ils ont envie d'agir et de se positionner. C'est pour ça que leur témoignage est utile.
Dans la deuxième partie de cet entretien, on va parler de chapitre 2 de votre doc qui s'appelle « Comment savoir se défendre ». On reste avec Caroline Delage. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la journaliste Caroline Delage, vous êtes journaliste, vous êtes également productrice et vous produisez ce documentaire « À bonne école, les enfants contre le harcèlement ». C'est à voir sur Canal Plus Kids et sur MyCanal. D'où viennent les harceleurs? Vous posiez la question tout à l'heure. Et qu'est-ce qui les anime? Je l'ai découvert grâce à ce doc, c'est que ce sont parfois d'anciens harcelés. Écoutez le témoignage de Yacine, il a 12 ans, il est en 5e.
Je me suis fait harceler, ça a débuté au CM1. On était deux groupes et on a commencé à se battre. Ensuite, tout mon groupe il s'est remis contre moi. Et en fait, après, quatre personnes du groupe à côté, bah, ils commençaient à harceler tout le temps. Ils me prenaient aux toilettes et ils me frappaient, ils m'insultaient. Quand on mangeait avec ma mère, j'essayais de cacher les bleus et tout. Bah, j'essayais de faire semblant, j'avais pas mal, je rigolais avec ma famille. Bah, au fond, moi, j'avais mal et j'avais mal physiquement. Moi, je suis devenue harceleur. Tous les jours, avec un groupe, on harcelait une élève qui venait pas d'ici, qui venait dans notre pays. On frappait pas, hein, mais on insultait. Et quand elle réagissait, elle courait et elle pleurait en même temps. Et nous, ça nous faisait rire. J'aurais dû l'aider, en fait. J'aurais dû l'aider à aller voir des gens et à parler. Mais je pense que moi, je voulais me venger de mes harceleurs alors que c'était pas du tout elle. Et du coup, je déversais ma colère sur une fille qui avait rien à voir.
Et ça rappelle cette structure que les parents violents sont parfois des parents qui, quand ils étaient enfants, avaient eux-mêmes été violentés par leurs parents. Les harceleurs sont souvent ceux qui ont été eux-mêmes harcelés.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à gérer ses émotions. C'est une des méthodes qu'on apprend dans le doc. L'empathie ou se défendre, la riposte, se défendre face à son harceleur pour éviter de reporter sa colère sur quelqu'un d'autre. Donc il y a tout un tas de techniques qui sont très utiles parce qu'en effet, oui, souvent souvent, ça arrive qu'un ancien harcelé devienne harceleur.
Alors c'est très important, si vous nous écoutez depuis le début de cette émission, on a passé des témoignages très forts de souffrance. Le documentaire dure 1h40, je crois, je cite ça de mémoire.
82 minutes.
Voilà, et la moitié du doc, ce sont des solutions.
Même 90% du doc, voilà, c'est le but.
Il y a un chapitre intitulé « Savoir se défendre ». Comment se défendre? On ne peut pas tout expliquer ici, mais il y a plein de méthodes.
Ça, c'est Emmanuel Piquet qui propose cette méthode de la riposte, qui est en fait d'apprendre aux enfants à trouver les ressources en eux-mêmes pour répondre. Alors non pas pour devenir agresseur à leur tour, mais pour... souvent en employant l'autodérision, parce que l'humour, et c'est pour ça qu'Inès Reg aussi est très forte dans ce documentaire, parce que l'humour c'est une arme très efficace quand on arrive à le manier et à aller le chercher. C'est pas facile l'autodérision, savoir se moquer de soi-même, surtout quand on est adolescent, mais c'est une arme redoutable pour finalement que le harcèlement ne marche plus. Parce que si on montre qu'on ne souffre pas, bah, le harceleur s'arrête. Ce qui intéresse le harceleur, c'est de faire souffrir.
Pour prendre un cas particulier d'Inès Reg, elle se faisait vanner parce qu'elle était toute petite, et le jour où elle s'est mise elle-même à vanner sa propre petite taille, le harceleur s'est rendu compte qu'elle riait avec lui, et donc il perdait
le pouvoir
qu'il pensait obtenir sur elle. Il y a également des exercices de méditation avec un professeur qui fait une sorte de yoga laïque.
De respiration, ouais. Oui, tout à fait. Bah, la respiration, apprendre à écouter, à penser au bon moment de la journée, faire parler les élèves pour un moment de détente comme ça. Et il a une phrase qui est toute simple mais qui est tellement vraie, c'est que si on est bien avec soi, on n'aura pas envie d'aller embêter les autres. Donc la respiration, chasser les sentiments négatifs. Et je pense que ça manque beaucoup dans notre éducation. Prendre un temps pour savoir être, pas que apprendre à savoir, mais apprendre à être, c'est fondamental et on ne l'a pas dans notre éducation en France. prendre un temps pour s'écouter, pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ses émotions, ça changerait beaucoup de choses.
Et il y a également des ateliers de théâtre, pardon, comme la Ligue d'improvisation, où il y a une professeure dont le nom m'échappe à l'instant, leur donne quasiment
Emmanuel Guyot, ouais.
Des concours de vannes et de répliques.
Ils prennent des situations vécues, des petites scénettes qu'ils jouent et puis qui se terminent mal. Et puis après, ils essayent de changer la chute, de changer un personnage pour voir, apprendre finalement à avoir des solutions, différentes réactions. Il n'y a pas de méthode universelle, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a plein de façons différentes de répondre au harcèlement. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir plusieurs à sa disposition et de piocher suivant les personnes, suivant les situations, celle qui convient le mieux.
Est-ce que vous irez voir ces enfants dans 3, 5 ou 10 ans ?
Je vais les voir cet après-midi déjà.
Mais pour voir si tout ceci s'est amélioré. Parce qu'ils sont devenus des médiateurs, ils sont lancés dans une
nouvelle étape. La médiation par les pairs, exactement. Ils ont fait cette formation pour pouvoir être un témoin non plus passif mais actif et faire en sorte que le harcèlement s'arrête avant même d'aller chercher un adulte. Parce que les enfants ont des ressources pour agir eux-mêmes. Il ne faut pas non plus tout remettre sur les adultes, évidemment. Il faut que les adultes soient conscients, très attentifs et soient prêts à intervenir. Mais les enfants eux-mêmes, c'est pour ça qu'on voulait faire ce film à hauteur d'enfants, avec des méthodes pour les enfants. Parce qu'il y a d'autres méthodes qui sont proposées par l'Éducation nationale au personnel éducatif. Là, nous, on s'intéressait à hauteur d'enfants. Et ils sont médiateurs, ils prêtent serment même, hein, c'est une fonction très importante. Ils s'engagent à lutter contre la violence à l'école, à faire en sorte d'aider leurs camarades sans se mettre en danger eux-mêmes, sans devenir agressés eux-mêmes, mais faire en sorte que ces situations de violence, petit à petit, s'arrêtent.
Grande qualité également de ce documentaire, vous défrichez des territoires dont on ne parlait pas en relation avec ce sujet, notamment l'architecture des établissements.
Ça, c'est en effet, dans la médiation par les pairs, Jackie Pamard, qui a donc cette ONG, qui est cet ancien harcelé dont on parlait, qui donne sa vie professionnelle pour lutter contre le harcèlement. En effet, il est convaincu que l'architecture des établissements, ça joue beaucoup parce qu'il y a parfois des petits recoins, des endroits cachés où on peut se réfugier, avoir de la violence sans le regard des adultes. Et donc, il faut repenser, il redessine les cours d'école aussi pour qu'il y ait un coin calme, un coin sport, un coin lecture, un coin jeu, etc. L'architecture et l'organisation géographique, ça joue beaucoup. Et je crois que c'est vrai parce qu'une école, c'est une petite société en fait. C'est une société en miniature. Et si à l'école, il y a ce climat de violence ou cette mauvaise architecture, mauvaise répartition, c'est la même chose que dans la société. Et si l'école est violente, la société est violente.
Caroline Delage, vous êtes également la conceptrice de l'émission Au Tableau, émission de C8 avec des enfants qui interrogent des stars, des politiques. Dites le principe de l'émission et ils posent toutes les questions.
Oui, ça se passe dans une salle de classe. Ils ont entre 8 et 12 ans et ce sont eux qui interviewent leurs invités à l'école. On l'a lancé pour la présidentielle en 2017, évidemment, avec les candidats. Et on va revenir en 2022 avec les candidats.
Ça allait être ma question, parce que c'est quand même une émission absolument formidable. Vous avez reçu Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon,
c'est ça,
Anne Hidalgo, Omar Sy, Nicolas Hulot, c'est Manuel Valls, Jamel Debbouze.
Édouard Philippe, Xavier Niel, Anne Sinclair, on a un casting magnifique.
Alors, je vais faire votre promo. Les enfants posent des questions que personne n'ose poser. Par exemple, Anne Sinclair, une question au sujet de DSK. Est-ce que vous regrettez d'avoir tout quitté pour Dominique Strauss-Kahn ? L'humoriste Jamel Debbouze, les enfants lui posent une question sur son bras paralysé qu'aucun journaliste n'ose lui poser.
Parce qu'il emploie le mot handicap. On n'employait pas avec Jamel.
Et il répond. Et Jamel répond, c'est ça qui est intéressant. Et question à Gad Elmaleh sur le plagiat. Comment réussissez-vous ce tour de force ? Non pas que les enfants posent les questions, mais que les invités acceptent de venir dans votre émission.
Ils acceptent et pour la plupart, beaucoup demandent à venir. Je crois qu'ils apprécient beaucoup ce moment d'authenticité, de transparence. On ne peut pas ne pas répondre à un enfant, quelle que soit la question. Et parfois, même
oui, mais
si...
quand on a une casserole, on a envie que cette casserole reste cachée.
En fait, non, parce que parfois, ils arrivent en disant « ce sujet-là, je ne veux pas en parler ». Et moi, je leur dis toujours « oui, de toute façon, l'émission n'est pas en direct, on verra ». Et en fin de compte, évidemment, le sujet est abordé et ils sont ravis d'avoir eu l'occasion de pouvoir en parler avec d'autres mots, d'une autre façon, face à un auditoire qui est quand même bienveillant, même si les questions sont cash et directes, mais il est toujours bienveillant, les enfants sont toujours bienveillants. Et finalement, en fin de compte, ils sont contents d'avoir abordé ce sujet qu'ils ne voulaient pas aborder.
Vous avez déjà commencé à tourner ?
Pour la présidentielle, oui. Ben non, on attend d'avoir les candidats définitifs encore. Non, on n'a pas encore commencé à tourner, mais bien sûr, on commence à préparer la production.
D'un mot, le format est exporté en Italie, Belgique, Espagne, Liban, Pologne,
dans 10 pays,
et même Nouvelle-Zélande et d'autres pays encore.
J'étais en Allemagne cet été parce que les candidats à la chancellerie allemande sont passés au tableau. C'était la 10e adaptation, absolument. Ça a été un carton d'ailleurs, plus de 4 millions de téléspectateurs.
C'est pas vrai.
Grand rendez-vous, ouais. Et les élections sont dans quelques jours pour le remplacement d'Angela Merkel. C'est quand même un événement politique fondamental en Allemagne. Les candidats sont passés au tableau.
Bravo à vous, voilà. voilà une bonne idée qui s'exporte. Merci Caroline Delage, journaliste et productrice de ce documentaire à Bonne École. C'est sous-titré « Les enfants contre le harcèlement ». C'est en exclusivité sur Canal Plus Kids et sur MyCanal quand on veut. Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h, les télescopages de Bruno Donnet et aujourd'hui, plutôt hier soir, Bruno a regardé les deux débats politiques de la soirée, un œil sur France 2, l'autre sur BFM. On a hâte de l'entendre. Notre invité, c'est l'écrivain Guillaume Musso pour son nouveau roman L'inconnu de la scène. Et puis dans les indispensables, Clément Le Saffre va nous parler d'un jeu vidéo d'aventure narratif et Olivier Pouls, le rédacteur de la revue des Vins de France, il va nous parler vendange évidemment. L'humoriste et imitateur Antoine Lebray en fin d'émission. Quel programme ? À tout de suite.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.